Édition de juillet 2015. Bonjour et bienvenue à cette nouvelle émission du podcast des éditions de l'avenir. Christian Martin au microphone. Au moment d'écrire ces lignes, au matin du 3 juillet, les forêts brûlent dans l'Ouest canadien, on fracasse des records de chaleur en Colombie-Britannique, l'Europe de l'Ouest vit une canicule, et ici, on a des nuits autour de 10 degrés. Beaucoup de pluie nous est tombée dessus en juin, et les limaces sont assaillies de potagers. Mais voyons un peu comment j'ai réussi à occuper mon temps au cours du dernier mois. Plusieurs heures ont encore été consacrées à Radio Saint-François. Mise à jour quotidienne, revue de presse, courriel. Au début du mois, recherche et installation d'un lecteur HTML5 pour la page d'accueil du site web, fin de chargement de rubriques sur Radionomie, mise à jour des archives. Réalisation des bulletins d'information chaque semaine. Le 6, rédaction d'un billet sur notre tournée des ventes de garage dans Newport, organisée dans le cadre de la fête des voisins. Mise en ligne le lendemain. Ajout de l'entrevue réalisée avec l'artiste-peintre Stuart Main sur la page de l'émission Les Belles Rencontres le 11 juin. Le 20, visite au marché aux puces de Chartierville, au profit de la Société canadienne du cancer, rédaction et mise en ligne d'un billet sur notre passage. Le 26, refonte de la page consacrée à l'émission Les Belles Rencontres et ajout de l'entretien avec l'aquarelliste de Whedon, Pierre Casey. Rédaction d'un billet sur l'état de la situation pour la radio le 28 juin. C'est aussi le moment où j'ai décidé de réduire considérablement le temps que je consacrerai à ce projet. Vous êtes invité à lire le billet en question pour plus de détails. Pour le blog, j'ai poursuivi la rédaction hebdomadaire de mes activités tout au long du mois. Le 19, je relevais les statistiques des téléchargements. Bonne nouvelle, les comptes du pays gallo ont dépassé les 4000 téléchargements et les coupables de Cécile Bramafa, les 2000 téléchargements. Il y a déjà un bon moment, j'ai adapté pour l'audio la ténébreuse affaire de Green Park. J'ai revisité sommairement le scénario afin de voir s'il était adaptable au cinéma. Conclusion, oui, mais non pas sans plusieurs heures de travail. Par ailleurs, j'ai décidé de diffuser les versions numériques de mes romans et recueils de nouvelles via Smashwords. Deux avantages sautent aux yeux. D'abord, cette plateforme offre les œuvres dans tous les formats populaires d'e-books et les diffuse à plusieurs grands noms des revendeurs d'e-books. Le but étant, bien sûr, d'augmenter la visibilité. Ainsi, j'ai formaté et préparé pour Smashwords Complot sur Alpa, la première aventure de Carlin Novi, Grand-père, mon bref roman pour enfants, et les chroniques de Petite Tête l'Omnibus, un recueil de nouvelles de science-fiction au ton humoristique. Le 16 juin, je me suis penché plus avant sur le logiciel GIMS afin d'en apprendre les rudiments. Tout ça pour améliorer l'aspect des couvertures de mes livres numériques. J'ai encore consacré pas mal de temps au résumé Perry Rodden. J'ai terminé de scripter la tranche des épisodes 170 à 179 les 2 et 3 juin. Le 9, je préparais les effets sonores et les musiques en vue du montage. Mise en ligne le 11 du volet des résumés pour les fascicules de 160 à 169 sur le blog et sur Audiocité. Le 23, j'ai enregistré les résumés pour les fascicules de 170 à 179 que j'éditais le lendemain. Début du montage le 25 juin, pour se terminer le 29. L'entité, le supra-être, se gava tant qu'il se transforma en un champ de tension refermé sur lui-même. Elle se stabilisa en masse et devint la planète Hercule. Sa structure se compose d'un molkex, lequel correspond à l'existence sous sa forme passive. Les anélicères sont issus du même molkex, mais qui a suivi une évolution différente. L'onde de choc gravitationnel émanant des Halles, le premier des petits projets Alphonse Allais prévus pour cette année, a été mis en ligne sur le blog et sur Audiocité le 4 juin. Je tire le pied d'une pauvre biche qui sert maintenant de cordon de sonnette. Un petit pas se fait entendre derrière la porte. On ouvre. C'est elle, ma petite blonde. Je lui dis... Au fait, qu'est-ce que j'ai bien pu lui dire? Parce que, vous savez, dans ces moments-là, on dit ce qui vous vient à l'esprit et puis 5 minutes après, on serait bien pendu pour le répéter. Mais ce que je me rappelle parfaitement, c'est ce qu'elle m'a répondu d'un air furieux. J'ai scripté la première page de l'édition du 6 octobre 1883 du Progrès de l'Est le 4 juin. Le 9, j'ai préparé les effets sonores pour le montage. Mise en ligne de la page 8 de l'édition du 29 septembre 1883 et mise à jour des index le 18 juin. L'entière édition du 29 septembre 1883 fut placée au catalogue d'Audiocité le 24 juin. L'enregistrement de la page 1 de l'édition du 6 octobre 1883 s'est étendu sur 2 jours, les 25 et 29 juin. Le montage s'est effectué le lendemain. Un pensionnaire de Sa Majesté britannique, un nommé Peter Small, Pierre Petit, ayant appartenu au 85e régiment, étant allé se baigner dans le lac après quelques jours de libation, a été pris de crampes et s'est noyé. On a retrouvé son corps contre un rocher, dans un endroit où il n'y avait pas plus de 3 pieds de profondeur. Richemont. Les deux secrétaires de nos écoles, catholiques et protestantes, je me suis remis plus activement à la généalogie depuis quelques semaines. Entre autres, en rédigeant des billets sur mes ancêtres, dans le blog créé à cet effet, et en reprenant mes recherches pour les branches de mon arbre que j'avais moins fouillées par le passé. Ayant reçu le bois de chauffage pour l'hiver prochain, j'ai consacré plusieurs heures à le corder à la mi-mois. Aussi travailler dans le potager, à remplir mes boîtes d'allumes, etc. Le 22 juin, j'ai reçu l'enregistrement de Carole pour le prochain épisode du PC Show. Le même jour, j'écoutais et choisissais les prises qui me convenaient en vue du montage. Récupération du fichier de Gabriel, le 30 juin. Mise en ligne de la 18e partie des relations des Jésuites, le 25 juin. Étant de retour au logis, et racontant au père de nous la difficulté du chemin, il me dit, pour me consoler, qu'allant au Huron, on rencontrait 40 endroits plus difficiles que celui dont je lui parlais. Dieu soit béni de tout. Si nos pères qui iront à ce pays-là ont de la peine, Dieu les sera fort bien récompensés. Voyant donc que je perdais beaucoup de temps en ces allées et venues aux cabanes, je cherchais un autre moyen de tirer quelque chose de la langue dont je parlerai tantôt. Au courrier, nous avons reçu des nouvelles de Corvo via le livre d'or d'Audiocité le 10 juin. Ah, très cher Christian, tout d'abord, mes plus sincères excuses pour ne pas avoir donné de nouvelles depuis... oh, une éternité. Sincèrement désolé. La principale raison est que depuis fin décembre, il m'est impossible de télécharger aucune des productions des éditions. J'ai tout essayé. Ça doit être un problème de compatibilité avec mon ordinateur. Par contre, j'arrive à télécharger les podcasts mensuels en passant par Podomatic, ce qui fait que j'ai quand même de vos nouvelles de temps en temps. Au fait, je voulais vous remercier de m'avoir fait découvrir Les yeux de l'ange bleu, enfin une saga MP3 que j'ai pu télécharger sans avoir à me battre avec le serveur. J'espère que vous vous portez bien et que vos activités sont florissantes. Ça doit être le cas à en juger par les derniers podcasts. Avec mes plus sincères amitiés, Corvo. PS. Ma nouvelle sur la suite des aventures des rescapés du Revanche avance petit à petit. Je pense pouvoir vous la communiquer d'ici la fin de l'année. Malgré le fait que je ne puisse plus écouter les productions hebdomadaires, je tiens à vous féliciter pour l'ensemble de votre travail de cette année, en particulier pour avoir bouclé le projet Edgar Poe. Bonjour Corvo, très heureux de vous lire. Dommage que vous ne puissiez plus télécharger les nouveautés audio hebdomadaires. Je voudrais bien en trouver la raison. Que s'est-il passé en décembre? C'est d'autant plus important pour moi que, peut-être, n'êtes-vous pas le seul à qui ce soit arrivé. Alors, je voudrais bien trouver une parade. Merci une fois de plus pour les mots d'encouragement. Ils font toujours du bien. Ils aident à franchir les moments d'essoufflement. Amitié, Christian. Place maintenant à Jean-Seb, qui nous offre la première partie de l'entretien qu'il a eu avec l'auteur de Projet Prototype. À toi, Jean-Seb.
Ici Jean-Seb et je vous souhaite la bienvenue pour la capsule nouveauté du podcast audio des éditions de l'Avenir. Bulletin qui vous informe sur les nouveautés francophones et, si possible, québécoises de l'univers audiophonique disponible sur le net. Pour cette mouture et les deux prochaines, je partage avec vous une fantastique entrevue que j'ai faite il y a quelques jours avec Adrien Mangold, écrivain pour l'instant toujours amateur, auteur de Prototype S et qui a mis la première partie d'une suite de romans qu'il a écrit sous forme de saga audio ou plus exactement, sous forme de livre immersif, soit un livre à mi-chemin entre l'audio et la vidéo, un livre joué et interprété, garni d'une ambiance sonore, un film auquel il ne manquerait que l'image, que j'ai découvert chez Netophonix il y a déjà quelque temps. La production de la série est actuellement en dormance et j'ai besoin de vous, chers auditeurs de la capsule Nouveauté, pour consulter la page de projetprototypes.wordpress.com afin d'écouter l'excellente production actuelle et laisser, je vous en supplie, un commentaire pour l'inciter à continuer l'œuvre. Comme vous pourrez l'entendre, il suffirait de presque rien pour achever notre bonheur et le sien. Sans plus tarder, je vous laisse écouter la première partie de cette entrevue. Alors, bien le bonjour, Adrien.
Bonjour, Jean-Seb.
Ça va bien?
Ça va très bien. Merci de me proposer cette interview. C'est très sympathique à toi.
Ah, ben c'est une belle expérience pour toi et pour moi, je crois.
Hein? Oui, bien sûr, une première. Donc. Parfait.
Alors, tu es écrivain et ouais. Tu as créé de toute ta prose l'histoire de Prototype S.
C'est ça, tout à fait. Alors, écrivain amateur, hein, précisons, dans le sens où il n'y a rien de publié de tous ces écrits pour le moment. Et Prototype S est le premier roman que j'ai terminé. Pas que j'ai commencé, mais que j'ai terminé, qui prend place donc dans un univers de science-fiction au travers plusieurs romans. Même il y en a eu d'autres qui ont suivi.
Ok, ça c'est ton premier que tu as complété.
Voilà, c'est ça.
Et tu en avais commencé d'autres avant?
D'autres, mais qui étaient sur un autre univers et une autre histoire. C'était de la fantasy, ce que j'avais commencé avant, il y a longtemps, il y a déjà 7-8 ans de ça.
Ok.
Et donc, je me suis lancé plutôt dans de la science-fiction. Ce point de vue de l'écriture, c'était un peu plus naturel pour moi, on va dire ça comme ça. Donc, je suis allé au bout d'un premier livre, Prototype S, et j'ai enchaîné sur le même univers, c'est des suites en fait, avec trois autres bouquins.
Ah oui, trois autres, il y a trois suites qui sont déjà prévues là-dessus en écrit.
Voilà, exactement.
Est-ce que tu voulais mettre un petit résumé de l'histoire, un petit gueuleton pour essayer de... un petit résumé, une petite intro de qu'est-ce que cette histoire-là, puis...
C'est un exercice très difficile que tu me demandes là. Trois phrases pour résumer le livre, c'est toujours difficile. Non, je vais me prêter au jeu. Donc, c'est un étudiant, effectivement... au début de la saga qu'on retrouve dans un amphithéâtre. Et comme tout étudiant qui se respecte, il va décider de faire une petite sieste en attendant le début du cours. Et là, en se réveillant, il se rend compte qu'il a été au centre d'une tuerie, tout simplement, pour laquelle il est l'unique survivant. Donc il n'a aucune idée de qui est l'auteur des meurtres et de pourquoi il l'a laissé en vie. Il sait juste que que c'est un androïde d'une technologie bien au-delà de celle que connaît sa société en ce moment. Et il va être amené, pour des raisons personnelles presque, à mener une enquête de son côté pour savoir pourquoi ces meurtres et pourquoi son meilleur ami, qui fait partie des victimes, a été tué et pas lui. Donc ça va l'amener à enquêter en même temps que les autorités compétentes, autorités qui sont dirigées par son propre père. Voilà, donc certaines rivalités vont apparaître pour des raisons diverses et variées.
À découvrir.
À découvrir.
Est-ce que tu as terminé de les écrire, les autres suites?
Oui, terminé. Oui, je recherche toujours des éditeurs pour ces livres d'ailleurs, hein. Ils sont en démarchage.
Oh, wow! C'est déjà en cours d'espoir de publication.
Voilà, mais c'est très difficile de se faire remarquer par les éditeurs et ça fait plusieurs années que je démarche au début pour Prototype S et puis plus récemment pour les suites. Donc c'est une longue bataille et on ne sait jamais si ça va mener quelque part à la fin. Voilà, on peut qu'espérer.
Ok, tu veux faire l'édition, la publication format papier, la publication sur Internet, est-ce que ça peut t'intéresser,
Alors, dans un premier temps, je cherche papier, mais je me
ça? Ok.
tournerai certainement vers la publication Internet, s'il n'y a pas eu de papier. Ouais, bien sûr. Ouais.
Ok. Donc un jour, c'est sûr qu'on va devoir, on va pouvoir voir ce que tu as créé.
J'espère bien, j'y compte bien. Voilà, j'arrêterai pas de chercher, j'arrêterai pas d'essayer en tout cas.
Ça fonctionne comment pour la publication? C'est quoi les démarches qu'il faut faire pour être publié? Tu envoies le fichier à différentes personnes et puis s'ils sont intéressés, ils répondent ou si
Voilà,
c'est
il y
plus?
a, en fait, les maisons d'édition demandent le manuscrit. En général, dans son intégralité, ils n'acceptent pas les extraits ni les premiers chapitres. Il faut vraiment que le texte soit terminé.
Ok.
On leur envoie ça en papier ou par mail, ça dépend des maisons d'édition. Et puis là, ça passe par un comité de lecture en général, qui doit être intéressé par le texte pour le retenir et le soumettre, disons, au directeur, à la direction, quoi, de l'édition. Donc il y a deux étapes. Et une fois que ces deux étapes sont passées, on peut être publié. Pour préciser un petit peu, il y a, suivant les maisons d'édition, 1 pour 100 à 1 pour 1000 manuscrits qui sont retenus.
Oh, c'est un
Donc les chances sont
bon.
très très faibles, voilà.
Oui.
Et une fois qu'on est retenu, après il s'ensuit toute une période de correction éditoriale que je n'ai jamais pu expérimenter du coup, mais qui doit être agréable à faire puisqu'on sait qu'à la fin c'est quand même la publication qui arrive. Donc c'est le dernier travail, on va dire, avant la publication.
Ok, donc là actuellement, c'est juste ton jet à toi. Que tu leur soumets, là. Il n'y a pas de correcteurs qui ont déjà repassé ton texte, il n'y a pas passé par tout un
Alors, pas de
processus de
correction.
correction, d'amélioration.
Alors, il y a bien sûr, si, il y a un processus comme ça qui a déjà été fait, mais pas professionnel. Il a
OK.
été fait par moi, qui ai relu, et par des amis qui m'ont donné des avis. Donc, le texte a déjà été relu et réécrit des dizaines de fois, mais toujours avec un point de vue amateur.
Oh wow, hey, ça demande, c'est un gros travail, hein? Des fois, on n'imagine pas ça, on lit un livre, puis on peut pas imaginer qu'il y a autant de travail et de.
C'est des années pour un livre, je pense c'est un an minimum pour un livre, mais vraiment minimum, hein. Je pense que
Ah,
la plupart des... Tant qu'on n'est pas comment dire, dans un rythme de publication, comme peuvent l'être certains auteurs très connus, qui arrivent à sortir un livre par an, parce que derrière eux, il y a déjà tout un système, pour écrire un premier livre, c'est plusieurs années, deux,
Okay.
trois ans, facile, facile.
C'est toute une machine à mettre en branle.
Exactement, exactement,
J'imagine une fois que le premier est déjà fait, après ça, c'est peut-être plus facile pour les suivants. Faut juste avoir du matériel d'écrit, là.
Bon, le matériel est très simple, hein, un logiciel gratuit même peut très bien faire l'affaire.
Oui.
Non, le matériel, il n'y a pas de souci. C'est les habitudes, c'est de la persévérance, on va dire. Ça devient pas simple du jour au lendemain, même quand on en a fini un premier. C'est toujours autant de travail, autant de relecture. Il n'y a pas, à moins d'être une machine ou d'être absolument surdoué,
Absolument.
c'est toujours énormément de travail.
Alors, qu'est-ce qui t'a poussé à créer l'audio de prototype S? Tu voulais être connu à partir de cette œuvre-là, voir si ça pouvait créer un engouement quelconque?
Voilà, donc ça part des, comme on a dit, des textes et en parallèle des démarches pour une publication papier, je me suis dit que ce serait bien d'essayer le format audio, puisque ça permet quand même de profiter d'autres médias, hein, que sont YouTube notamment, mais de passer plus facilement aussi sur les réseaux sociaux. Donc je me suis dit, on se lance, on verra bien ce que ça donne. Et avec un peu de chance, l'audio pourra ramener des lecteurs et donc amener un retour vers le texte en lui-même et l'édition du texte.
Et voilà pour la première partie de l'entrevue. Pour terminer, je désire vous rappeler que chez Netophonics, le concours de la saga de l'été 2015 bat son plein. Ne manquez pas d'aller faire vos votes pour ceux qui désirent participer et soumettre leur création d'un minimum de 20 minutes. Ont jusqu'au 30 août 2015 pour faire leur soumission. Entre-temps, n'oubliez pas d'aller encourager Adrien avec projetprototypes.wordpress.com. À vous, les studios!
Merci Jean-Seb. Suite de Le mystère de la chambre jaune de Gaston Leroux. Dans l'épisode précédent, Rouletabille visite la chambre jaune et explore l'espace sous le lit. Et maintenant, la suite. Chapitre 8. Le juge d'instruction interroge Mademoiselle Stangerson. 5 minutes plus tard, Joseph Rouletabille se penchait sur les empreintes de pas découvertes dans le parc, sous la fenêtre même du vestibule, quand un homme, qui devait être un serviteur du château, vint à nous à grandes enjambées, il cria à M. Robert Darzac qui descendait du pavillon.
« Vous savez, M. Robert, que le juge d'instruction est en train d'interroger mademoiselle ?»
M. Robert Darzac nous jeta aussitôt une vague excuse et se prit à courir dans la direction du château. L'homme courut derrière lui. « Si le cadavre parle, fis-je, cela va devenir intéressant. »«
Il faut savoir. »
dit mon ami.
« Allons au château. »
Et il m'entraîna. Mais au château, un gendarme placé dans le vestibule nous interdit l'accès de l'escalier du premier étage. Nous dûmes attendre. Pendant ce temps-là, voici ce qui se passait dans la chambre de la victime. Le médecin de la famille, trouvant que Mademoiselle Stangerson allait beaucoup mieux, mais craignant une rechute fatale qui ne permettrait plus de l'interroger, avait cru de son devoir d'avertir le juge d'instruction. Et celui-ci avait résolu de procéder immédiatement à un bref interrogatoire. À cet interrogatoire assistèrent M. de Marquet, le greffier, M. Stangerson, le médecin. Je me suis procuré plus tard, au moment du procès, le texte de cet interrogatoire. Le voici dans toute sa sécheresse juridique. Demande.
Sans trop vous fatiguer, êtes-vous capable, mademoiselle, de nous donner quelques détails nécessaires sur l'affreux attentat dont vous avez été victime?
Réponse.
Je me sens beaucoup mieux, monsieur, et je vais vous dire ce que je sais. Quand j'ai pénétré dans ma chambre, je ne me suis aperçu de rien d'anormal.
Demande.
Pardon, mademoiselle, si vous me le permettez, je vais vous poser des questions et vous y répondrez. Cela vous fatiguera moins que l'on récit.
Réponse.
« Faites, monsieur. »
Demande.
« Quel fut ce jour-là l'emploi de votre journée ? Je le désirerais aussi précis, aussi méticuleux que possible. Je voudrais, mademoiselle, suivre tous vos gestes ce jour-là, si ce n'est point trop vous demander. »
Réponse.
« Je me suis levé tard, à 10 heures, car mon père et moi, nous étions rentrés tard dans la nuit. » ayant assisté au dîner et à la réception offerts par le président de la République en l'honneur des délégués de l'Académie des sciences de Philadelphie. Quand je suis sortie de ma chambre à 10h30, mon père était déjà au travail dans le laboratoire. Nous avons travaillé ensemble jusqu'à midi. Nous avons fait une promenade d'une demi-heure dans le parc. Nous avons déjeuné au château. Une demi-heure de promenade jusqu'à 1h30, comme tous les jours. Puis, mon père et moi, nous retournons au laboratoire. Là, nous trouvons ma femme de chambre qui vient de faire ma chambre. J'entre dans la chambre jaune pour donner quelques ordres sans importance à cette domestique qui quitte le pavillon aussitôt et je me remets au travail avec mon père. À 5h, nous quittons le pavillon pour une nouvelle promenade et le thé.
Demande. Au moment de sortir, à 5h, êtes-vous entré dans votre chambre? Réponse.
Non, monsieur. C'est mon père qui est entré dans ma chambre pour y chercher, sur ma prière, mon chapeau.
Demande. Il n'y a rien vu de suspect, monsieur Stangerson?
Évidemment non, monsieur.
Demande.
Du reste, il est à peu près sûr que l'assassin n'était pas encore sous le lit, à ce moment-là. Quand vous êtes parti, la porte de la chambre n'avait pas été fermée à clé,
mademoiselle Stangerson?
Non, nous n'avions aucune raison pour cela.
Demande.
Vous avez été combien de temps parti du pavillon à ce moment-là, monsieur Stangerson et vous?
Réponse.
1 heure environ.
Demande.
C'est pendant cette heure-là, sans doute, que l'assassin s'est introduit dans le pavillon. Mais comment? On ne le sait pas. On trouve bien, dans le parc, des traces de pas qui s'en vont de la fenêtre du vestibule. On n'en trouve point qui en viennent. Aviez-vous remarqué que la fenêtre du vestibule fut ouverte quand vous êtes sorti avec votre père?
Réponse.
Je ne m'en souviens pas.
Monsieur Stangerson.
Elle était fermée.
Demande.
Et quand vous êtes rentré?
Mademoiselle Stangerson.
Je n'ai pas fait attention.
Monsieur Stangerson.
Elle était encore fermée. Je m'en souviens très bien, car en rentrant, j'ai dit tout haut, vraiment, pendant notre absence, le père Jacques aurait pu ouvrir.
Demande.
Étrange. Étrange. Rappelez-vous, monsieur Stangerson, que le père Jacques, en votre absence, et avant de sortir, l'avait ouverte. Vous êtes donc rentré à 6h dans le laboratoire et vous vous êtes remis au travail,
mademoiselle Stangerson?
Oui, monsieur.
Demande.
Et vous n'avez plus quitté le laboratoire depuis cette heure-là jusqu'au moment où vous êtes entré dans votre chambre,
monsieur Stangerson?
Ni ma fille, ni moi, monsieur. Nous avions un travail tellement pressé que nous ne perdions pas une minute. C'est à ce point que nous négligions toute autre chose.
Demande.
Vous avez dîné dans le laboratoire?
Réponse.
Oui, pour la même raison.
Demande.
Avez-vous coutume de dîner dans le laboratoire?
Réponse.
Nous y dînons rarement.
Demande.
L'assassin ne pouvait pas savoir que vous dîneriez ce soir-là dans le laboratoire,
monsieur Stangerson?
Mon Dieu, monsieur, je ne pense pas. C'est dans le temps que nous revenions, vers 6h au pavillon, que je pris cette résolution de dîner dans le laboratoire, ma fille et moi. À ce moment, je fus abordé par mon garde, qui me retint un instant pour me demander de l'accompagner dans une tournée urgente du côté des bois dont j'avais décidé la coupe. Je ne le pouvais point et remis au lendemain cette besogne et je priai alors le garde, puisqu'il passait par le château, d'avertir le maître d'hôtel que nous dînerions dans le laboratoire. Le garde me quitta, allant faire ma commission, et je rejoignis ma fille à laquelle j'avais remis la clé du pavillon et qui l'avait laissée sur la porte à l'extérieur. Ma fille était déjà au travail.
Demande.
À quelle heure, mademoiselle, avez-vous pénétré dans votre chambre pendant que votre père continuait à travailler?
Mademoiselle Stangerson.
À minuit?
Demande.
Le père Jacques était entré dans le courant de la soirée dans la chambre jaune?
Réponse.
Pour fermer les volets et allumer la veilleuse, comme chaque soir?
Demande.
Il n'a rien remarqué de suspect?
Réponse.
Il nous l'aurait dit. Le père Jacques est un brave homme qui m'aime beaucoup.
Demande.
Vous affirmez, monsieur Stangerson, que le père Jacques, ensuite, n'a pas quitté le laboratoire, qu'il est resté tout le temps avec vous,
monsieur Stangerson.
J'en suis sûr. Je n'ai aucun soupçon de ce côté.
Demande.
Mademoiselle, quand vous avez pénétré dans votre chambre, vous avez immédiatement fermé votre porte à clé et au verrou. Voilà bien des précautions, sachant que votre père et votre serviteur sont là. Vous craignez donc quelque chose?
Réponse.
Mon père n'allait pas tarder à rentrer au château, et le père Jacques a allé se coucher. Et puis, en effet, je craignais quelque chose.
Demande.
Vous craignez si bien quelque chose que vous avez emprunté le revolver du père Jacques sans de lui dire?
Réponse.
C'est vrai, je ne voulais effrayer personne, d'autant plus que mes craintes pouvaient être tout à fait puériles.
Demande.
Et que craignez-vous donc?
Réponse.
Je ne saurais au juste vous le dire. Depuis plusieurs nuits, il me semblait entendre dans le parc et hors du parc, autour du pavillon, des bruits insolites, quelquefois des pas, des craquements de branches. La nuit qui a précédé l'attentat, nuit où je ne me suis pas couché avant 3 heures du matin, à notre retour de l'Élysée, je suis resté un instant à ma fenêtre et j'ai bien cru voir des ombres.
Demande.
Combien d'ombres?
Réponse.
2 ombres qui tournaient autour de l'étang. Puis la lune s'est cachée et je n'ai plus rien vu. À cette époque de la saison, tous les ans, j'ai déjà réintégré mon appartement du château, où je reprends mes habitudes d'hiver. Mais cette année, je m'étais dit que je ne quitterais le pavillon que lorsque mon père aurait terminé, pour l'Académie des sciences, le résumé de ses travaux sur la dissociation de la matière. Je ne voulais pas que cette œuvre considérable, qui allait être achevée dans quelques jours, fût troublée par un changement quelconque dans nos habitudes immédiates. Vous comprenez que je n'ai point voulu parler à mon père de mes craintes enfantines et que je les ai tues au père Jacques, qui n'aurait pu tenir sa langue. Quoi qu'il en soit, comme je savais que le père Jacques avait un revolver dans le tiroir de sa table de nuit, je profitai d'un moment où le bonhomme s'absenta dans la journée pour monter rapidement dans son grenier et emporter son arme que je glissai dans le tiroir de ma table de nuit à moi.
Demande.
Vous ne vous connaissez pas d'ennemis?
Réponse.
Aucun.
Demande.
Vous comprendrez, mademoiselle, que ces précautions exceptionnelles sont faites pour surprendre.
Monsieur Stangerson.
Évidemment, mon enfant. Voilà des précautions bien surprenantes.
Réponse.
Non. Je vous dis que, depuis 2 nuits, je n'étais pas tranquille. Mais pas tranquille du tout.
Monsieur Stangerson.
Tu aurais dû me parler de cela. Tu es impardonnable. Nous aurions évité un malheur.
Demande.
La porte de la chambre jaune fermée, mademoiselle. Vous vous couchez?
Réponse.
Oui, et très fatiguée. Je dors tout de suite.
Demande.
La veilleuse était restée allumée?
Réponse.
Oui, mais elle répand une très faible clarté.
Demande.
Alors, mademoiselle, dites ce qui est arrivé.
Réponse.
Je ne sais s'il y avait longtemps que je dormais, mais soudain je me réveille Je poussai un grand cri.
Monsieur Stangerson ?
Oui, un cri horrible à l'assassin. Je l'ai encore dans les oreilles.
Demande. Vous poussez un grand cri ? Réponse.
Un homme était dans ma chambre. Il se précipitait sur moi, me mettait la main à la gorge, essayait de m'étrangler. J'étouffais déjà. Tout à coup, ma main, dans le tiroir entrouvert de ma table de nuit, parvint à saisir le revolver que j'y avais déposé et qui était prêt à tirer. À ce moment, l'homme me fit rouler en bas de mon lit et brandit sur ma tête une espèce de masse. Mais j'avais tiré. Aussitôt, je me sentis frappé par un grand coup, un coup terrible à la tête. Tout ceci, monsieur le juge, fut plus rapide que je ne pourrais le dire. Et je ne sais plus rien.
Demande.
Plus rien. Vous n'avez pas une idée de la façon dont l'assassin a pu s'échapper de votre chambre ?
Réponse.
Aucune idée. Je ne sais plus rien. On ne sait pas ce qui se passe autour de soi quand on est morte.
Demande.
Cet homme était-il grand ou petit ?
Réponse.
Je n'ai vu qu'une ombre qui m'a paru formidable.
Demande.
Vous ne pouvez nous donner aucune indication ?
Réponse.
Monsieur, je ne sais plus rien. Un homme s'est rué sur moi. J'ai tiré sur lui. Je ne sais plus rien.
Ici se termine l'interrogatoire de Mademoiselle Stangerson. Joseph Rouletabille attendit patiemment M. Robert Darzac. Celui-ci ne tarda pas à apparaître. Dans une pièce voisine de la chambre de Mademoiselle Stangerson, il avait écouté l'interrogatoire et venait le rapporter à notre ami avec une grande exactitude, une grande mémoire et une docilité qui me surprit encore. Grâce aux notes hâtives qu'il avait prises au crayon, il put reproduire presque textuellement les demandes et les réponses. En vérité, M. Darzac avait l'air d'être le secrétaire de mon jeune ami et agissait en tout comme quelqu'un qui n'a rien à lui refuser. Mieux encore, quelqu'un qui aurait travaillé pour lui. Le fait de la fenêtre fermée frappa beaucoup le reporter comme il avait frappé le juge d'instruction. En outre, Rouletabille demanda à M. Darzac de lui répéter encore l'emploi du temps de M. et Mlle Stangerson le jour du drame, tel que Mlle Stangerson et M. Stangerson l'avaient établi devant le juge. La circonstance du dîner, dans le laboratoire, semblait l'intéresser au plus haut point. Il se fit redire deux fois, pour en être plus sûr, que, seul, le garde savait que le professeur et sa famille dînaient dans le laboratoire, et de quelle sorte le garde l'avait su. Quand M. Darzac se fut tu, je dis, « Voilà un interrogatoire qui ne fait pas avancer beaucoup le problème. »«
Il le recule. »
obtempéra M. Darzac.
« Il l'éclaire. »
fit, pensif, Rouletabille.
En complément de programme, en collaboration avec AudioCité.net, les éditions de l'Avenir présentent Nouvelles histoires extraordinaires d'Edgar Allan Poe.
Le cœur révélateur. Vrai, je suis très nerveux, épouvantablement nerveux. Je l'ai toujours été. Mais pourquoi prétendez-vous que je suis fou ? La maladie a aiguisé mes sens, elle ne les a pas détruits, elle ne les a pas émoussés. Plus que tous les autres, j'avais le sens de l'ouïe très fin. J'ai entendu toutes choses du ciel et de la terre. J'ai entendu bien des choses de l'enfer. Comment donc suis-je fou ? Attention ! Et observez avec quelle santé, avec quel calme, je puis vous raconter toute l'histoire. Il est impossible de dire comment l'idée entra primitivement dans ma cervelle. Mais, une fois conçue, elle me hanta nuit et jour. D'objets, il n'y en avait pas. La passion n'y était pour rien. J'aimais le vieux bonhomme. Il ne m'avait jamais fait de mal, il ne m'avait jamais insulté. De son or, je n'avais aucune envie. Je crois que c'était son œil. Oui, c'était cela. Un de ses yeux ressemblait à celui d'un vautour. Un œil bleu pâle avec une taie dessus. Chaque fois que cet œil tombait sur moi, mon sang se glaçait. Et ainsi, lentement, par degrés, je me mis en tête d'arracher la vie du vieillard et par ce moyen de me délivrer de l'œil à tout jamais. Maintenant, voilà le hic. Vous me croyez fou. Les fous ne savent rien de rien. Mais si vous m'aviez vu, si vous aviez vu avec quelle sagesse je procédais, avec quelle précaution, avec quelle prévoyance, avec quelle dissimulation je me mis à l'œuvre. Je ne fus jamais plus aimable pour le vieux que pendant la semaine entière qui précéda le meurtre. Et chaque nuit, vers minuit, je tournais le loquet de sa porte et je l'ouvrais. Oh, si doucement! Et alors, quand je l'avais suffisamment entrebâillé pour ma tête, j'introduisais une lanterne sourde, bien fermée, ne laissant filtrer aucune lumière. Puis, je passais la tête. Oh, vous auriez ri de voir avec quelle adresse je passais ma tête. Je la mouvais lentement, très, très lentement, de manière à ne pas troubler le sommeil du vieillard. Il me fallait bien une heure pour introduire toute ma tête à travers l'ouverture, assez avant pour le voir couché sur son lit. Ah, un fou aurait-il été aussi prudent ? Et alors, quand ma tête était bien dans la chambre, j'ouvrais la lanterne avec précaution. Oh, avec quelle précaution ! Avec quelle précaution ! Car la charnière criait. Je l'ouvrais juste assez pour qu'un filet imperceptible de lumière tomba sur l'œil de vautour. Et cela, je l'ai fait pendant 7 longues nuits, chaque nuit juste à minuit. Mais je trouvais toujours l'œil fermé. Et ainsi, il me fut impossible d'accomplir l'œuvre. Car ce n'était pas le vieux homme qui me vexait, mais son mauvais œil. Et chaque matin, quand le jour paraissait, j'entrais hardiment dans sa chambre. Je lui parlais courageusement, l'appelant par son nom d'un ton cordial et m'informant comment il avait passé la nuit. Ainsi, vous voyez qu'il eût été un vieillard bien profond, en vérité, s'il avait soupçonné que chaque nuit, juste à minuit, je l'examinais pendant son sommeil. La 8e nuit, je mis encore plus de précautions à ouvrir la porte. La petite aiguille d'une montre se meut plus vite que ne faisait ma main. Jamais avant cette nuit, je n'avais senti toute l'étendue de mes facultés, de ma sagacité. Je pouvais à peine contenir mes sensations de triomphe. Penser que j'étais là, ouvrant la porte, petit à petit, et qu'il ne rêvait même pas de mes actions ou de mes pensées secrètes. À cette idée, je lâchai un petit rire. Et peut-être m'entendit-il, car il remua soudainement sur son lit, comme s'il se réveillait. Maintenant, vous croyez peut-être que je me retirais ? Mais non ! Sa chambre était aussi noire que de la poix, tant les ténèbres étaient épaisses, car les volets étaient soigneusement fermés de crainte des voleurs. et sachant qu'il ne pouvait pas voir l'entrebâillement de la porte, je continuai à la pousser davantage, toujours davantage. J'avais passé ma tête et j'étais au moment d'ouvrir la lanterne quand mon pouce glissa sur la fermeture de fer blanc et le vieux homme se dressa sur son lit criant « Qui est là ?» Je restai complètement immobile et ne dis rien. Pendant une heure entière, je ne remuai pas un muscle. Et pendant tout ce temps, je ne l'entendis pas se recoucher. Il était toujours sur son séant, aux écoutes, juste comme j'avais fait pendant des nuits entières, écoutant les horloges de mort dans le mur. Mais voilà que j'entendis un faible gémissement et je reconnus que c'était le gémissement d'une terreur mortelle. Ce n'était pas un gémissement de douleur ou de chagrin, oh non, c'était le bruit sourd et étouffé qui s'élève du fond d'une âme surchargée d'effroi. Je connaissais bien ce bruit, bien des nuits, à minuit juste, pendant que le monde entier dormait. Il avait jailli de mon propre sein, creusant avec son terrible écho les terreurs qui me travaillaient. Je dis que je le connaissais bien. Je savais ce qu'éprouvait le vieux homme, et j'avais pitié de lui, quoique j'eusse le rire dans le cœur. Je savais qu'il était resté éveillé, depuis le premier petit bruit quand il s'était retourné dans son lit. Ses craintes avaient toujours été grossissantes. Il avait tâché de se persuader qu'elles étaient sans cause, mais il n'avait pas pu. Il s'était dit à lui-même « Ce n'est rien que le vent dans la cheminée. Ce n'est qu'une souris qui traverse le parquet. Ou c'est simplement un grillon qui a poussé son cri. » Oui, il s'était efforcé de se fortifier avec ses hypothèses, mais tout cela a été vain. Tout a été vain, parce que la mort qui s'approchait avait passé devant lui avec sa grande ombre noire et qu'elle avait ainsi enveloppé sa victime. Et c'était l'influence funèbre de l'ombre inaperçue qui lui faisait sentir, quoiqu'il ne vît et n'entendît rien, qui lui faisait sentir la présence de ma tête dans la chambre. Quand j'eus attendu un long temps, très patiemment, sans l'entendre se recoucher, je me résolus à entr'ouvrir un peu la lanterne, mais si peu que rien. Je l'ouvris donc si furtivement que vous ne sauriez l'imaginer, jusqu'à ce que, enfin, un seul rayon pâle, comme un fil d'araignée, s'élança de la fente et s'abattit sur l'œil de vautour. Il était ouvert, tout grand ouvert, et j'entrai en fureur aussitôt que je l'eus regardé. Je le vis avec une parfaite netteté, tout entier d'un bleu terne et recouvert d'un voile hideux qui glaçait la moelle dans mes os. Mais je ne pouvais voir que cela de la face ou de la personne du vieillard, car j'avais dirigé le rayon, comme par instinct, précisément sur la place maudite. Et maintenant, ne vous ai-je pas dit que ce que vous preniez pour de la folie n'est qu'une hyperacuité des sens? Maintenant, je vous le dis, un bruit sourd, étouffé, fréquent vint à mes oreilles, semblable à celui que fait une montre enveloppée dans du coton. Ce son là, je le reconnus bien aussi. C'était le battement du cœur du vieux. Il a cru ma fureur comme le battement du tambour exaspère le courage du soldat. Mais je me contins encore et restai sans bouger. Je respirais à peine. Je tenais la lanterne immobile. Je m'appliquais à maintenir le rayon droit sur l'œil. En même temps, la charge infernale du cœur battait plus fort, Elle devenait de plus en plus précipitée et à chaque instant de plus en plus haute. La terreur du vieillard devait être extrême. Ce battement, dis-je, devenait de plus en plus fort à chaque minute. Me suivez-vous bien ? Je vous ai dit que j'étais nerveux. Je le suis en effet. Et maintenant, au plein cœur de la nuit, parmi le silence redoutable de cette vieille maison, un si étrange bruit jetant en moi une terreur irrésistible. Pendant quelques minutes encore, je me contins et restai calme. Mais le battement devenait toujours plus fort, toujours plus fort. Je croyais que le cœur allait crever. Et voilà qu'une nouvelle angoisse s'empara de moi. Le bruit pouvait être entendu par un voisin. L'heure du vieillard était venue. Avec un grand hurlement, j'ouvris brusquement la lanterne et m'élançai dans la chambre. Il ne poussa qu'un cri, un seul. En un instant, je le précipitai sur le parquet et je renversai sur lui tout le poids écrasant du lit. Alors, je souris avec bonheur, voyant ma besogne fort avancée. Mais pendant quelques minutes, le cœur battit avec un son voilé. Cela toutefois ne me tourmenta pas. On ne pouvait l'entendre à travers le mur. À la longue, il cessa. Le vieux était mort. Je relevai le lit et j'examinai le corps. Oui, il était roide, roide mort. Je plaçai ma main sur le cœur et l'y maintins plusieurs minutes. Aucune pulsation, il était roide mort. Son œil désormais ne me tourmenterait plus. Si vous persistez à me croire fou, cette croyance s'évanouira quand je vous décrirai les sages précautions que j'employais pour dissimuler le cadavre. La nuit avançait et je travaillais vivement mais en silence. Je coupais la tête, puis les bras, puis les jambes. Puis j'arrachai trois planches du parquet de la chambre et je déposai le tout entre les voliges. Puis je replaçai les feuilles si habilement, si adroitement, qu'aucun œil humain, pas même le sien, n'aurait pu y découvrir quelque chose de louche. Il n'y avait rien à laver, pas une souillure, pas une tache de sang. J'avais été trop bien avisé pour cela. Un baquet avait tout absorbé. Quand j'eus fini tous ces travaux, il était 4 heures. Il faisait toujours aussi noir qu'à minuit. Pendant que le timbre sonnait l'heure, on frappa à la porte de la rue. Je descendis pour ouvrir avec un cœur léger, car qu'avais-je à craindre maintenant ? 3 hommes entrèrent qui se présentèrent avec une parfaite suavité comme officiers de police. Un cri avait été entendu par un voisin pendant la nuit. Cela avait éveillé le soupçon de quelque mauvais coup. Une dénonciation avait été transmise au bureau de police et ces messieurs, les officiers, avaient été envoyés pour visiter les lieux. Je souris, car qu'avais-je à craindre ? Je souhaitai la bienvenue à ces gentlemen. Le cri, dis-je, c'était moi qui l'avais poussé dans un rêve. Le vieux bonhomme, ajoutai-je, était en voyage dans le pays. Je promenai mes visiteurs par toute la maison. Je les invitai à chercher et à bien chercher. À la fin, je les conduisis dans sa chambre. Je leur montrai ses trésors en parfaite sûreté, parfaitement en ordre. Dans l'enthousiasme de ma confiance, j'apportai des sièges dans la chambre et les priai de s'y reposer de leur fatigue, tandis que moi-même, avec la folle audace d'un triomphe parfait, j'installai ma propre chaise sur l'endroit même qui recouvrait le corps de la victime. Les officiers étaient satisfaits. Mes manières les avaient convaincus. Je me sentais singulièrement à l'aise. Ils s'assirent et ils causèrent de choses familières auxquelles je répondis gaiement. Mais, au bout de peu de temps, je sentis que je devenais pâle et je souhaitais leur départ. Ma tête me faisait mal et il me semblait que les oreilles me tintaient. mais il restait toujours assis et toujours il causait. Le tintement devint plus distinct. Il persista et devint encore plus distinct. Je bavardai plus abondamment pour me débarrasser de cette sensation. Mais elle tint bon et prit un caractère tout à fait décidé, tant qu'à la fin, je découvris que le bruit n'était pas dans mes oreilles. Sans doute, je devins alors très pâle, mais je bavardai encore plus couramment et en haussant la voix. Le son augmentait toujours. Et que pouvais-je faire? C'était un bruit sourd, étouffé, fréquent, ressemblant beaucoup à celui que ferait une montre enveloppée dans du coton. Je respirai laborieusement. Les officiers n'entendaient pas encore. Je causais plus vite, avec plus de véhémence. Mais le bruit croissait incessamment. Je me levai et je disputais sur des niaiseries dans un diapason très élevé et avec une violente gesticulation. Mais le bruit montait, montait toujours. Pourquoi ne voulait-il pas s'en aller ? J'arpentais ça et là le plancher, lourdement et à grands pas, comme exaspéré par les observations de mes contradicteurs. Mais le bruit croissait régulièrement. Oh Dieu, que pouvais-je faire? J'écumais, je battais la campagne, je jurais, j'agitais la chaise sur laquelle j'étais assis et je la faisais crier sur le parquet. Mais le bruit dominait toujours et croissait indéfiniment. Il devenait plus fort, toujours plus fort. Et toujours les hommes causaient, plaisantaient et souriaient. Était-il possible qu'ils n'entendissent pas Dieu Tout-Puissant? Non, non, ils entendaient, ils soupçonnaient, ils savaient. Ils se faisaient un amusement de mon effroi. Je le crus et je le crois encore. Mais n'importe quoi était plus tolérable que cette dérision. Je ne pouvais pas supporter plus longtemps ces hypocrites sourires. Je sentis qu'il fallait crier ou mourir. Et maintenant encore, l'entendez-vous? Écoutez! Plus haut, toujours plus haut, toujours plus haut! Misérable, m'écriai-je, ne dissimulez pas plus longtemps, j'avoue la chose! Arrachez ses planches, c'est là, c'est là! C'est le battement de son affreux cœur!
En collaboration avec audiocité.net, les éditions de l'Avenir vous ont présenté Le cœur révélateur, lu par Eglantine, tiré de nouvelles histoires extraordinaires de Edgar Allan Poe. La musique, composée par Kevin MacLeod, est sous licence Creative Commons. On peut la retrouver à incompetech.com. Cet enregistrement est diffusé sous licence Creative Commons Attributions Share Alike et est une coproduction d'audiocité.net et des éditions de l'Avenir. Pour tout connaître de nos productions, visitez audiocité.net ainsi que l'avenir-audio.canalblog.com. Merci de votre attention et à bientôt. Et ainsi se termine cette 7e émission de la 3e série du podcast des éditions de l'Avenir. Vous pouvez trouver nos émissions sur la page qui leur est consacrée sur Canalblog, l'avenirpodcast.canalblog.com, ainsi que sur SoundsMap, en transition sur Podomatic, l'avenir.podomatic.com, sur Podcast France, via le Miro Guide, partiellement sur Stitcher et Radio H2O. Vous pouvez nous suivre sur Twitter, Google+, et Facebook. La musique utilisée en cours d'émission est habituellement de Kevin MacLeod, incompetech.com, et de Christian Martin. Merci de votre attention et à bientôt.